Juste dans le sens de simplement d'avoir une communion. Il n'y a pas de doctrine ici. Donc moi, j'ai grandi dans la vie de l'Église. J'ai grandi dans Irving, Texas. Il y a une très grande vie de l'Église là-bas. Quand j'ai gradué, diplômé là-bas, il y avait 30 étudiants là-bas. Donc, on avait le réveil matinal sur campus, dans la cafétéria, et c'était pas, on n'était pas gêné, on n'était pas silencieux, on était bruyant, mais c'était pas grave. On se jouissait du Seigneur, on a invité nos amis, on était tellement excités, et on avait beaucoup de fruits qui demeuraient pendant ce temps. Je suis allé à UT Austin. J'ai étudié l'informatique et en fait la pré-médecine. J'ai voulu entrer dans le droit, mais finalement j'ai changé à la médecine. Mais par la miséricorde du Seigneur, j'ai gardé mon diplôme d'informatique. Pendant ce temps-là, il y avait initiative, disons, un fardeau à Austin pour avoir plusieurs équipes de campus pour apprendre à comment labourer sur les campus universitaires. Et donc, sur le campus à Austin, Texas, c'était très difficile de ne pas voir les frères. Et après l'université, je suis allé à Anaheim pour la formation à temps plein pendant 2 ans. Et chaque personne, après la formation, a une lutte pour décider à quoi faire après la formation. Donc, c'est pas comme après l'école secondaire, parce qu'après le secondaire, vous allez à l'université, et après l'université, peut-être que vous allez à la formation, mais après la formation, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plein d'options. Et donc, j'ai considéré aller dans la direction de médecine, mais c'est une période de 10 ans de presque d'être limité dans notre temps. On est comme pris pendant 10 ans. Mais après la formation, j'avais aussi un désir de servir le Seigneur à temps plein. Après 2 ans, après toute cette jouissance, on veut déverser sur le Seigneur. Donc, j'étais, après la formation, un peu entre quelques décisions. Il y a des portions dans le ministère, message pour les anciens, volume 8, je pense, chapitre 4 et 5, Le frère Lee, dans cette portion, parle de qu'est-ce que c'est d'être un serviteur à temps plein. Et la clé, c'est quelqu'un qui vit au Seigneur. Tu peux, donc, les mères peuvent lire des livres Curious George en vue du Seigneur. On n'est pas défini par « je suis un avocat, je suis un comptable ». Non, mais en premier lieu, nous sommes des serviteurs à temps plein. Nous appartenons à lui. On peut avoir un emploi, mais on peut ne pas. Mais c'est secondaire. Ce qui est primaire, c'est que nous vivons au Seigneur. Dans tout ce que nous faisons dans nos vies, nous vivons au Seigneur et en vue du Seigneur. Et il y a un autre frère qui a partagé avec moi, Moïse. Il a lancé son bâton et ça a devenu un serpent. Le bâton était un soutien Et ça peut être notre emploi, parce que c'est notre soutien. Mais il a repris, pas par la tête, mais par la queue. Normalement, on ne fait pas ça. Mais le Seigneur a dit à Moïse de la prendre par la queue, qui est différent du monde. Nous traitons nos emplois à l'opposé de ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils les saisissent, parce que c'est leur soutien. Mais nous, on la prend dans le sens inverse. On a une vue différente. On a une vue différente. Parce que si le Seigneur nous dit de le lâcher, on peut le lâcher. Il n'y a pas de dépendance sur nous. Parce que nous servons le Seigneur. On peut avoir un emploi ou on peut ne pas avoir un emploi. J'ai aussi apprécié dans le ministère de Watch Many des œuvres compilées de Watch Many. Frère Ni, il parle de Marc chapitre 6. Que le Seigneur envoie les disciples sur le côté de la mer. Et ça dit qu'il voulait les dépasser. Il a voulu les dépasser. Mais l'indication là, c'est que le Seigneur les a envoyés sur un chemin particulier. Et quand il les a dépassés sur le chemin qui les a envoyés. Il a pris le chemin qu'il les a envoyés, le même chemin. Et donc, le Seigneur nous a donné un chemin, une course pour chacun de nous. Le Seigneur est mort pour eux et il est les contraint d'aller sur un chemin. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est de chercher le chemin que le Seigneur nous a ordonné. Beaucoup de saints, de chrétiens, n'ont pas encore trouvé le chemin que le Seigneur a ordonné pour eux. C'est pour ça que dans nos vies, il y a beaucoup de morts spirituelles. Mais notre tâche est de chercher le Seigneur d'une façon intense et authentique pour que le Seigneur nous révèle notre chemin, le chemin que le Seigneur nous a ordonné. Et après, on devrait aller sur ce chemin avec tout notre cœur. Donc, Paul parlait de son chemin, sa course. Donc, la direction générale de l'Église, c'est de préparer sa mariée, d'édifier son corps, mais en même temps, nous sommes des membres, chacun de nous sont des membres du corps. Nous avons tous des fonctions différentes et aussi une course différente. Donc, une tentation, c'est de nous comparer avec d'autres. Le Seigneur a conduit ce frère-là de laisser son emploi. Ah, moi, je devrais faire la même chose. Ah, pourquoi est-ce que je devais garder mon emploi pour être si dans le monde? Mais non. Mais si on suit simplement les autres, quand le Seigneur revient et on le voit, il peut nous dire qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas marché sur le chemin que j'ai ordonné pour toi. Notre course est déterminée par le Seigneur. Donc, si nous cherchons sa volonté et il a une certaine chemin pour nous, on oublie le chemin des autres. Nous sommes responsables au Seigneur pour suivre le chemin que le Seigneur nous a donné. Pas de voir le chemin des autres, mais de voir notre chemin. Ça m'a beaucoup encouragé parce que après la formation, il y a une pression pour servir le Seigneur. Mais à travers la direction et la communion des frères, c'était clair d'aller à l'école de médecine. Donc, j'ai voulu travailler pour aider édifier le bâtiment, un bâtiment de centre de ministère, mais en tout cas, le Seigneur m'a conduit dans un autre chemin. Sa parole m'a encouragé, m'a réconforté, parce que si le Seigneur m'a ordonné sur ce chemin, c'est un chemin sûr. Et on a simplement besoin de suivre le Seigneur. Hein? Donc, c'était la première fois pour moi de vraiment considérer quelle direction aller. Et il était fidèle. Il a déterminé ma course et m'a aussi donné la grâce pour marcher sur cette course. Donc, je suis allé à Houston. J'ai terminé une année de l'école de médecine et j'étais marié. Et après 4 ans de médecine, j'ai fait ma résidence et j'ai ouvert au Seigneur en quoi spécialiser. Une option, c'était d'être un médecin dans la salle d'urgence. C'était une bonne option parce que j'aurais beaucoup de temps libre. Une autre option, c'était dans la médecine des oreilles, du nez et la bouche. C'était plus technique. Mais le Seigneur était clair que c'était la bonne direction pour moi. Et donc, j'ai laissé de côté mes préférences et j'ai simplement suivi ce chemin-là. Et donc, après 5 ans, je suis là. Et après 5 ans de résidence difficile, ça fait 1 an et demi que j'ai terminé ma résidence. Et après ma résidence, on a considéré où déménager. C'était clair pour nous qu'il fallait déménager de Houston. Houston était une très grande localité. On voulait participer à la GTCA. Donc il y avait beaucoup de villes et beaucoup d'options. Mon intention était vraiment de quitter le Texas, mais en tout cas, en fin de compte, on sentait que Lubbock, Texas, était la direction du Seigneur. Et la situation dans mon emploi, c'est vraiment une situation parfaite pour la vie de l'Église. J'ai un temps alloué pour mon emploi et j'ai un temps limité pour la vie de l'Église. J'ai un fils de 4 ans et une fille de 4 mois, donc il y a beaucoup de choses que je peux parler par rapport à mon emploi, mais à la vie de l'Église, le jour du Seigneur, on a la table du Seigneur, on a la réunion de prophétie, en après-midi, des fois, on aura des étudiants chez nous. Et j'ai normalement un appel de conférence par rapport à des 5 travailleurs, un autre appel de conférence sur les enfants, les jeunes gens. il y a une autre réunion où il y a des saints qui viennent chez nous. Le mercredi, il y a une réunion de prière. C'est tôt, plus tôt dans la journée. Ah, c'est à 18h30 pour qu'on puisse avoir une réunion de ministère à 20h à 22h. Jeudi, on a une réunion de maison dans notre maison. Et donc, on s'est joué à une autre famille. Wow. Et donc, on a à peu près 15 personnes dans notre réunion de maison. Et en fait, à Lubbock, c'est petit, 15. Normalement, c'est 30. Mais il y a un autre frère dans la médecine et il amène quelques de ses collègues, des camarades de classe chez nous aussi. Vendredi et samedi, c'est un peu c'est libre, mais on cherche le Seigneur comment prendre soin des saints dans les communautés. Il y avait un couple qui nous a approchés. Il nous a dit, « Ah, on veut avoir une réunion de maison. » Donc, ça, c'est un peu notre vie de tous les jours. Je me réveille à 6h30. J'amène mon fils à la garderie. Et après, je vais au bureau. Je suis sur appel 6 jours dans un mois. Je suis dans la salle d'opération mardi et jeudi. À l'hôpital, les gens pensent que je suis un médecin et ils savent pas que je suis un serviteur à temps plein. Mais en fin de compte, il n'y a pas une différence entre un saint travailleur et un frère qui sert à temps plein. C'est pas que ce frère-là il fonctionne dans la réunion donc il est serviteur à temps plein. Ce frère-là il fonctionne pas donc il travaille. Non, il devrait pas avoir une différence dans la réunion. Il devrait pas avoir une différence à l'extérieur des réunions. Il devrait pas avoir de différence non plus. C'est pas que le frère qui travaille il conduit telle sorte de voiture et le serviteur à temps plein, il conduit une autre sorte de véhicule, de voiture. Non. Le frère Lee dit que pour un frère qui travaille, il devrait prendre l'argent qu'il gagne et il devrait considérer combien est assez et un bon montant pour soutenir sa famille, hein. Un montant suffisant, on devrait allouer un montant suffisant de notre argent pour prendre soin de notre famille. Mais la définition d'un montant suffisant, c'est subjectif. Est-ce que notre standard de vie, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est extra suffisant? Il y a beaucoup de choses qu'on peut, tu sais, argumenter que c'est suffisant. Peut-être une télévision peut être suffisant. Peut-être cette marque de nourriture est suffisant. Mais il y a une tentation, il y a un risque. Nous pensons que c'est, on a besoin de ça, mais en fait, le Seigneur a un autre sentiment. Mais bon, c'est en résumé, il ne devrait pas avoir de différence dans notre vie entre un saint travailleur, un saint qui travaille avec un emploi et un serviteur à temps plein. Donc, on va terminer à 17h45. Donc, vraiment, moi, j'ai, J'ai juste 20 minutes. Est-ce qu'on devrait continuer avec les témoignages ou bien aller pour essayer de répondre aux questions? Je suis très encouragé par le témoignage de David parce qu'il y a, des endroits où les jeunes gens ont une chance de fleurir. Moi, mon enfance était un peu différent. Le recouvrement du Seigneur a passé à travers une tempête quand j'étais jeune. Donc, après la tempête, le nombre de saints a descendu de 300 à peut-être 50. Donc, on était à Saint-José et on était un peu dispersés. Et donc, parmi les jeunes, je pense pas qu'il y avait des jeunes qui étaient dans les mêmes écoles. Mais le Seigneur nous a préservés et après des circonstances, ma famille était dans la vie de l'Église et à l'université, j'étais toujours dans la vie de l'Église, mais dans cette ville-là, il y avait aussi une tempête et donc pendant que j'étais à l'université, c'était la période où ils rebâtissaient la vie de l'Église. Il y avait deux frères là-bas qui ont vraiment pris soin des étudiants là-bas. Et donc, quand j'ai commencé l'université, il y avait peut-être quatre nouveaux étudiants dans la vie de l'Église, mais après que j'ai fini mon diplôme, il y avait 120 étudiants collégiaux. Encore une fois, il y avait beaucoup d'expérience pour apprendre. Et le Seigneur m'a conduit à aller à la formation en temps plein. Donc, les compagnons, c'était très clé. Une chose qui était très important et qui m'a influencé beaucoup, c'est les compagnons. Et j'ai eu la chance d'avoir des compagnons dans mes années universitaires. Et beaucoup de mes compagnons sont allés à la formation aussi. Je suis allé à UC Berkeley et j'ai étudié, mon bac était en génie électrique. Et là-bas, il y avait un programme de génie et informatique très fort là-bas. Et c'était difficile. Mon père était un génie ingénieur électrique et c'était pour ça que j'ai étudié ça. Mais une des choses que je me suis rendu compte, c'est en préparant pour aller à la formation en temps plein, je peux continuer à être un ingénieur. Après la formation, le Seigneur, il fallait que je décide qu'est-ce que je devrais faire et une option c'était continuer en génie électrique. Mais une des choses, une des habiletés que souvent les ingénieurs manquent, comment lire des textes qui sont pas des textes techniques ou bien pour bien communiquer avec les gens ou avoir des habileté interpersonnelle. Et donc, une chose que j'ai remarqué dans le ministère, dans le ministère, le frère Lee se répète. En tout cas, j'ai réalisé que en lisant le ministère, je comprenais pas bien des choses, et donc j'ai réalisé qu'il fallait que j'apprenne des autres habiletés. Hein. Et donc, le Seigneur m'a conduit à aller dans la direction du droit. Et donc, les avocats, il fallait entretenir avec beaucoup de personnes et il fallait lire et écrire beaucoup. Et avec chaque décision, il faut que le Seigneur nous conduise à faire. Mais pour moi, d'une façon, j'ai réalisé que si je voulais être utile au Seigneur, humainement, je sentais qu'il fallait développer certaines habiletés. Et donc, je suis allé à New York, à Columbia, et donc, c'est connu comme une autre école difficile. Dans la formation, j'avais un concept que il faut déchirer, non, il faut renier notre moi, notre homme naturel. Donc, un concept que j'avais, c'est pourquoi aller à l'école pour élever mon homme naturel, pourquoi passer du temps comme ça? Mais après avoir eu de la communion avec des frères, j'ai réalisé que le Seigneur a... Pardon. Le Seigneur nous a dit de oui, on peut avoir des informations, mais il faut être prêt que après avoir développé obtenu vos diplômes, vous devez être prêt à laisser tomber toutes ces choses. Mais le point, c'est que il faut développer notre vase. Il faut être éduqué pour le Seigneur. Et donc, quelques capacités, le Seigneur va utiliser nos capacités pourvu que c'est dans la résurrection. Le Seigneur va les amener à travers la mort et la résurrection pour être utile à lui. Donc, pour servir dans la vie de l'Église, un frère m'avait dit, il y a des prérequis. Il faut être disponible. Et deuxièmement, il faut avoir un fardeau. Et c'est intéressant parce que la disponibilité est avant notre fardeau. Donc, même si tu as un fardeau, mais si tu n'es pas disponible, c'est inutile. Et troisièmement, il y a la capacité. Il y a un rôle pour la capacité d'avoir des habiletés pour pouvoir lire et écrire et communiquer, saisir les concepts complexes. Avec l'ingénieur, Avec l'ingénierie, c'est vraiment noir et blanc. Tu peux, c'est soit tu as le résultat, tu produis le résultat ou non. Et donc, tu peux vivre votre vie comme ça. Dis-moi, c'est quoi la bonne chose à faire? C'est soit bon ou mauvais. Le Seigneur a parlé de cette. Il y avait un homme aveugle. Est-ce que c'est la faute à lui ou son père qu'il est aveugle? Et il y avait une autre situation où, parce que les pharisiens voulaient savoir, est-ce qu'on devrait payer les taxes ou non? Mais le Seigneur a dit, on devrait donner des choses à César, des choses à Dieu. Une femme était prise dans l'acte de l'adultère. Est-ce qu'on devrait pas lapider, mais lancer des pierres ou non? Mais le Seigneur n'a pas répondu d'une façon noire et blanc. Donc, ça peut être facile de voir le monde en noir et en blanc. Mais, avec le Seigneur, il n'est pas dans le domaine de noir et blanc ou bon ou mauvais. Si ton humanité est programmée de penser aux choses simplement noir et blanc, il faut avoir une réponse noir et blanc. Vous allez être frustré si vous allez aux frères pour leur demander qu'est-ce qu'on devrait faire. Et les frères nous disent, il faut aller au Seigneur. Mais tu peux penser, mais c'est pas une, ça ne m'aide pas. Je veux avoir une réponse, oui ou non. Mais il faut apprendre à aller au Seigneur et le prendre comme notre tête. Il y a ceux qui servent à temps plein et ils considèrent qu'ils se demandent, est-ce que je dois continuer à servir à temps plein ou est-ce que je devrais prendre un emploi? Mais il faut apprendre vraiment à aller au Seigneur. Il faut aller à l'esprit ou dépendre de l'esprit et aussi le corps. Donc d'abord, il faut aller au Seigneur pour chercher sa direction. Et aussi, mais secondairement, on va au corps, aux frères, pour recevoir la communion. Il y a peut-être que vous servez à temps plein et que vous considérez si vous devez prendre un emploi. Il y a des frères qui disent que c'est bien de faire un emploi. Et moi aussi, j'ai donné cette communion à certains saints. J'ai donné ce conseil-là, mais ça dépend de chaque personne. Parce que notre vase doit être développé. Notre vase devrait être développé pour servir le Seigneur. Mais peut-être qu'en travaillant, ton vase va être développé pour être plus utile au Seigneur. Une chose, si tu n'es pas utile dans le monde, tu ne seras pas utile au Seigneur. Si on regarde Moïse, on sait qu'il a eu une formation excellente. Avant d'être dans le désert, il était pendant 40 ans, il était formé avec l'éducation égyptienne. On sait qu'après 80 ans, il a dit qu'il ne pouvait pas parler, mais Il était formé pour édifier, bâtir son vase humain. Peut-être que... OK. Peut-être que tu travailles à un emploi. Peut-être que tu as un désir pour servir, mais les frères vous recommandent d'aller travailler. Mais au minimum, vous préparez votre vase pour être plus utile au Seigneur si le Seigneur t'appelle à servir à temps plein. Donc le point, c'est il faut être ceux qui nous rendons compte. Peu importe... OK. Notre éducation, notre travail, c'est tous une préparation pour servir le Seigneur. Et donc, OK, revenons à moi-même. Je suis allé à l'école de droit. Après, je suis revenu. J'ai travaillé pour un juge. Et après, j'ai travaillé pour une firme de loi, de droit. Une chose avec les firmes de droit, c'est tu vas gagner beaucoup de formation là-bas. Mais j'ai réalisé que la quantité de travail qui ça demandait dans une firme de droit, c'était pas compatible avec la vie de l'Église. Pour moi, mon temps, c'était vraiment limité pour la vie de l'Église. J'étais un frère qui s'assoyait en derrière dans les réunions. Et donc, toutes ces choses, c'était une indication pour moi que c'était pas une bonne direction pour moi. Donc, aujourd'hui, je ne pratique pas comme un avocat. Et donc, mais moi, je travaille corporate trustee. Un officier corporatif. Si vous me demandez, est-ce que je suis excité pour mon travail, mais je vous dirais, j'ai l'emploi le plus ennuyeux, je dirais. Un emploi où tu peux aider des gens, c'est très bien, comme un médecin ou un professeur. Mais même si tu n'es pas dans un domaine où tu aides les gens, ou bien vous pouvez être dans un domaine qui est un peu ennuyant, mais c'est... Mais on devrait avoir une vue que mon emploi, c'est simplement pour payer les factures et servir le Seigneur. Moi-même, j'avais pas l'attitude ou je n'avais pas, tu sais, un fort désir de servir le Seigneur. Mais mon attitude, c'était quand les frères me demandaient à faire telle ou telle tâche, tel ou tel service, je disais amen. Et petit à petit, ces responsabilités-là ont accumulé et ont grandi. Et donc, je servais le Seigneur de plus en plus. Mon but, mon objectif, c'est de servir un montant où j'ai pas le temps de travailler. Donc, en d'autres mots, je veux être un serviteur à temps plein, mais je peux être un serviteur à temps plein maintenant en ayant un emploi. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul était un serviteur à temps plein? S'il y a quelqu'un qui était un serviteur à temps plein, c'était l'apôtre Paul. Il passait jour et nuit pour labourer. Il était dans la synagogue. Oui, il était un serviteur à temps plein, mais il avait un emploi. Il fabriquait des tentes. Il fallait travailler avec ses mains pour servir lui-même et les autres, ses collaborateurs. Et donc, ça, c'est un modèle d'un serviteur à temps plein. Nos emplois ne sont pas pour nous, pour augmenter notre vie, notre style de vie, élever nos vies quotidiennes, mais c'est pour servir, servir nos pouvoirs à nos besoins et aux besoins des autres. Je crois que c'est suffisant pour les témoignages. Je pense que je peux essayer de répondre aux questions. Une des questions, c'est comment avoir une réunion de prière appropriée? La façon d'avoir une réunion de prière adéquate, c'est il faut prier. Une réunion qui n'est pas appropriée, c'est une réunion où toi tu ne pries pas. C'est pas une blague. Il y a des réunions de prière où les gens, ils s'assoient là et ils prient pas. Ça, c'est le premier point. Il faut prier. Il y a beaucoup d'apprentissage pour avoir une réunion de prière. Dans chaque réunion, il y a un certain courant ou flot. Les réunions de prière ne sont pas déterminées par l'homme, mais par Christ dans les cieux. Le Christ qui est dans les cieux et le Christ qui est dans notre esprit. C'est lui qui est dans les cieux qui intercède. C'est aussi l'Esprit qui intercède en nous, dans les cieux et en nous. Et cette question-là est frais à Irvine, là où je suis. Dans le ministère, ça part de. Il y a des exemples où vous devez utiliser la moitié du temps pour prier, l'autre moitié pour avoir de la communion. Mais à Irvine, nous. OK. À Irvine, avant, on avait une liste de prières, mais on a réalisé que c'était un peu comme une béquille. Hein? Il n'y avait pas vraiment de. On n'avait pas d'espace pour que le Seigneur nous conduise dans nos sujets de prière. Donc, les frères dirigeants, on a décidé d'arrêter les listes de prière. On a choisi un fardeau pour que tous les districts peuvent prier. on pouvait utiliser un temps pour avoir de la communion avec chaque district. Chaque district pouvait avoir un temps pour avoir de la communion pour la direction de son district. Donc, pour avoir une réunion de prière, on a besoin d'apprentissage. Il faut que les frères responsables, les frères dirigeants, communient encore pour se considérer les besoins de chaque district. J'ai pas entendu la question, désolé. La question, c'est est-ce que je devrais retourner à l'école? Pour moi, après mon bac, si j'étais allé à l'école de droit tout de suite, serait trop difficile. Mais c'est pour ça que aller à la formation en temps plein, c'était une bonne transition. Désolé, je considère mes années dans mon master, c'est vraiment mon éducation parce que j'avais une vue concernant moi-même, pourquoi j'étais à l'école et concernant mes camarades de classe. Donc, si vous retournez à l'école, c'est merveilleux. Une chose que je vais dire, c'est que c'est une chance de corriger toutes les erreurs, tu sais, un nouveau commencement. C'est une chance de refaire les choses comme ça. Oui, la question c'est je suis sur le point de retourner à l'école. Je trouve que pour moi, après avoir allé à la formation en temps plein, j'étais plus avantageux, j'étais un avantage par rapport à mes camarades de classe à l'école de médecine parce que les autres après les études de bac, ils avaient un style de vie très, tu sais, ils allaient au fêtes, ils fêtaient beaucoup, ils couchaient très tard et tout. Mais moi, j'ai développé des bonnes habitudes de style de vie. Et donc, en termes de pouvoir contacter les gens, c'est aller à la formation, c'est une très bonne préparation. et aussi retourner à... OK. Oh. Pardon, il y avait une autre question, je n'ai pas saisi. Comment, je pense, transitionner entre chérir les autres et nourrir les autres? Je ne suis pas contre, tu sais, inviter des gens pour des étudiants ou quoi, des nouveaux pour regarder des sports, les Olympiques ou quoi. Je ne suis pas contre ça, mais il faut avoir un but. Il faut avoir un but pour tout ça. C'est pas que c'est ségrégué, c'est mis dans un c'est ségrégué. On regarde la télé et après on lit la Bible. C'est cependant que vous jouez des jeux, tu peux partager concernant le Seigneur. Mais la nourriture, une chose, c'est sûr. Une chose est sûre, c'est la nourriture doit être légitime. Ça peut pas être dans une canette. Ça doit être quelque chose qui est frais, qui est légitime à toi-même. Parce que si c'est frais à toi-même, ça va être frais pour l'autre personne. C'est pas quelque chose où tu enseignes quelque chose qui est objectif pour toi. Donc, si c'est frais et vivant pour toi, il y a souvent une réponse de l'autre personne. C'est quelque chose que moi j'ai aimé. Donc, c'est un apprentissage d'apprendre comment transitionner de chérir, d'aller à nourrir. Donc, si tu jouis de quelque chose personnellement, ça devient plus réel pour toi et pour l'autre personne. Les prophéties qui viennent des expériences des saints, ça nourrit. C'est la même chose avec les nouveaux, quand on prend soin des nouveaux. S'il y a quelque chose que tu as vraiment, vraiment aimé, apprécié, ça, c'est la meilleure nourriture pour donner aux nouveaux.